When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hello et welcome pour le nouvel épisode de chez nous. J'espère que vous allez bien et que vous avez pris soin de vous depuis la dernière fois que vous m'avez eu dans vos oreilles, si ce n'est pas la première fois que vous m'écoutez. Cette semaine, on va faire un épisode de podcast qui est déjà apparu dans le sens où j'ai déjà fait deux épisodes sur ce thème. Donc on va parler de course à pied et de mon histoire par rapport à ça et répondre à vos questions. J'ai fait un premier épisode sur de débutante au semi-marathon où je vous ai expliqué mon histoire, je vous ai répondu. Enfin, j'ai répondu à certaines de vos questions, je vous ai donné des conseils. Ensuite, j'ai fait un deuxième épisode aussi Q&A où j'ai répondu à pas mal de questions. Et cette fois-ci, on va parler de mon expérience en tant que marathonienne. Parce que, waouh, c'est fou de pouvoir le dire comme ça. Mais j'ai couru mon premier marathon dimanche 7 avril à Paris. Et j'avais absolument envie d'en faire un podcast pour parler de mon expérience, comment j'y suis arrivée en un an. Mes conseils et répondre évidemment à vos questions parce que j'ai mis une story sur Insta où je vous ai demandé de poser des petites questions pour que je puisse y répondre et il y en avait énormément donc déjà je tiens à m'excuser pour ceux qui ont posé des questions et qui n'auront pas de réponse mais c'était vraiment impossible, il y avait des centaines et des centaines de questions donc je referai des épisodes avec grand plaisir où j'essaierai d'en faire des vidéos etc. mais je fais de mon mieux, promis, j'essaie de prendre les questions qui ressortaient le plus. Et j'espère que ça vous aidera et que ça vous motivera à vous lancer et que ça vous donnera les meilleurs conseils possibles. Commençons par le commencement, mon histoire et comment est-ce que je suis arrivée à un marathon en un an. Déjà, pourquoi est-ce que je dis en un an ? Alors, j'ai commencé à courir il y a à peu près 2 ans. Mais sauf que quand j'ai commencé il y a 2 ans, je courais vraiment... En fait, j'ai commencé en été 2022 à courir tous les jours, mais c'était vraiment 2-3 km le matin. J'avais aucune idée de comment courir. Je courais avec des chaussures qui n'étaient absolument pas adaptées. Je faisais n'importe quoi. Et j'en ai déjà parlé dans mon épisode sur les semi-marathons, si vous ne l'avez pas écouté. Mais c'était vraiment pas, c'était vraiment pas structuré. Il n'y avait pas de programme. J'avais aucun objectif. Je voulais juste me réveiller et réveiller mon corps et ma tête. Et c'était une façon pour moi de le faire. Mais il n'y avait vraiment absolument aucun, entre guillemets, niveau, aucune allure. C'était purement et simplement aller courir pour me réveiller. Ensuite, j'ai fini par me lancer le challenge de mon premier semi-marathon qui est arrivé un an après. Donc, j'ai couru pendant 6 mois tous les matins. Après, j'ai fait une pause de plusieurs mois. Et en avril du coup 2023, il y a un an, j'ai revu des copines. Je crois que c'était avril-mai. Donc, ça fait entre un an et 11 mois quoi, que je me suis mis sérieusement. J'ai décidé de me lancer le challenge de courir mon tout premier semi-marathon parce que ça faisait quelques temps que je faisais... Du coup, du sport en salle, que je faisais du fitness, que j'avais commencé un peu la boxe, mais je trouvais que ça manquait vraiment énormément de dépassement de soi. J'avais l'impression que ça faisait extrêmement longtemps que dans ma vie, je n'étais pas allée au-delà de ce que je me croyais capable, que j'étais pas allée essayer de repousser mes limites, de titiller mes limites. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu la sensation de tenir un challenge et de me dépasser. Et du coup, quand ma copine Charlotte, dont je vous ai parlé des millions de fois et que vous connaissez très bien maintenant parce qu'elle est sur les réseaux, m'a proposé de courir le semi-marathon de Lisbonne avec elle en octobre 2023, j'ai accepté. Et je me suis dit que ce serait l'occasion pour moi de suivre strictement et vraiment une préparation semi-marathon, pardon, et de m'y donner. Parce que vraiment, ça faisait longtemps que je courais, mais comme je l'ai dit au début, il n'y avait aucune préparation, il n'y avait aucun plan que je suivais. Et je m'étais dit, ok, Océane, là, tu vas suivre des programmes et tu vas t'y tenir, tu vas courir ton semi-marathon et ça va le faire. Si jamais vous voulez plus d'explications sur comment courir son premier semi-marathon et comment j'ai couru le premier semi-marathon de ma vie, n'hésitez pas à aller directement écouter l'épisode sur les semi-marathons. Mais là, on va parler de vraiment comment ça m'a amené au marathon. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai couru mon premier semi-marathon. Ça m'a amené vers un amour vraiment fou pour la course à pied qui a fait que j'ai eu envie de continuer à battre mes temps, de continuer à m'entraîner, de continuer à évoluer. Et je me suis lancée le challenge de faire un semi-marathon par mois jusqu'au marathon de Paris, sachant qu'au début j'avais aucune idée que j'allais faire le marathon de Paris, hein. J'ai su que j'allais faire le marathon de Paris en décembre 2023, mais avant j'avais aucune idée, et je m'étais dit que j'allais juste continuer à faire des semi-marathons tous les mois, et je m'étais dit que j'allais le faire pour une cause, donc j'ai contacté Make-A-Wish France, qui est une association, et je leur ai dit que j'aimerais bien essayer de lever des fonds pour eux, en partageant sur mes réseaux mes courses et en partageant une cagnotte, et c'est ce qui s'est passé, donc j'ai couru En novembre, le semi-marathon de Vérone. En décembre, le semi-marathon de Malaga. En janvier, le semi-marathon de Madère. En février, le semi-marathon de Cardiff. En mars, j'étais censée faire le semi-marathon de Paris, mais je me suis blessée. On en reviendra. Et au final, j'ai fini mars avec le semi-marathon de Lisbonne. Du coup, après le semi-marathon de mon premier semi-marathon de Lisbonne en octobre, je me suis dit, ok, je vais juste essayer de maintenir mon niveau semi-marathon. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à courir le nombre de kilomètres que je faisais. Je me suis inscrite avec une application dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Runa, RUNA, qui a des plans d'entraînement pour tout type d'entraînement. Ça peut être du trail, comme ça peut être du 5 km, comme votre premier 10 km, comme votre premier semi-marathon, comme améliorer votre temps sur semi-marathon, comme votre premier marathon, améliorer votre temps marathon, etc. Et donc j'ai fait ça, j'ai fait un plan semi-marathon avec eux et j'ai continué à suivre ce plan-là. Et c'est seulement en novembre que Charlotte a commencé à me parler du marathon de Paris. Elle, je crois que ça faisait quelques temps déjà qu'elle l'avait en tête, je ne saurais pas vous dire les dates et je ne vais pas parler pour elle, mais elle m'en avait parlé vaguement, quelques fois. Elle m'avait dit, est-ce que tu veux le faire avec moi? Moi je vais le faire, allez, inscris-toi, machin. Et au début j'étais en mode, mais no fucking way, il n'y a aucun monde. Et je me souviens très bien que quand j'ai fait le semi de Vérone, je me disais, mais jamais de la vie je serais capable de recourir 21 km. Genre, je me disais, mais c'est impossible, après 21 km, de recourir 21 km. Pour moi c'était l'autre bout du monde, c'était inimaginable. Et quand elle me parlait du marathon, j'étais vraiment dubitative. Je disais, mais meuf, je comprends pas comment tu peux faire ça et comment tu veux vouloir faire ça. Sachant qu'elle a bien plus d'expérience dans la course, donc je pense que c'est normal qu'elle est arrivée au moment où elle avait envie de le faire. Et vraiment, au début, quand elle m'en parlait, c'était mais no way. Vraiment, j'étais incapable de m'imaginer faire un marathon. Impossible. Sauf que plus les semaines passaient, plus je commençais à me dire, bon, ok, est-ce que... Enfin, j'y repensais en fait, ça me restait dans la tête. J'arrêtais pas de me dire, en vrai, pourquoi pas, c'est un autre challenge, t'as couru plein de semis, est-ce que c'est un truc que tu te vois faire dans ton année de césure, c'est peut-être le moment ou jamais. Je sais pas, ça me restait vraiment bloqué et j'arrêtais pas d'y repenser. Et en fait, c'est que quand j'ai eu la chance incroyable d'être contactée par Azix et Intersport, que je me suis dit, ok, en vrai, c'est trop gros, c'est un signe énorme qui fait que je suis obligée de le faire. Parce que je me suis dit, mais il y a tellement d'autres créateurs de contenu qui auraient pu être contactés, ils auraient pu très bien vouloir signer quelqu'un qui est bien plus connu que moi, qui a bien plus d'abonnés, qui est bien plus doué ou moins doué, j'en sais rien, parce qu'ils avaient des castings en tête, ils voulaient peut-être des gens un peu plus forts que moi, peut-être des gens un peu moins forts que moi, qui étaient vraiment débutants, qui n'avaient jamais rien couru, des gens... bien plus, enfin bref, vous avez compris, il y avait tellement de profils différents qu'ils auraient pu sélectionner, ils ont sélectionné le mien, et je me suis dit, ok, non mais c'est trop gros pour que ce soit pas fait pour être l'année où je le fais. Et du coup, j'ai accepté. Et comment vous dire que quand on m'a parlé de ça au début, j'étais en mode, mais pourquoi je fais ça? Parce que je me souviens, j'étais en contact avec Webedia, donc Webedia c'est l'agence qui a géré cette collaboration, et elle me disait, la fille qui travaille à Webedia qui s'appelle Honor, si jamais elle écoute, je pense pas, mais je fais des bisous, elle me disait, mais... t'inquiète, t'es pas obligé de finir, si t'y arrives pas, faut être surhumain et tout. Et je me souviens que quand elle m'a envoyé ce message, je me suis dit, mais meuf, mais tu me connais pas. 100% je vais finir ce marathon et je vais y arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Donc à partir du coup de décembre 2023, je me suis dit, ok, là je me mets à full dans ma prépa et j'arrête les plans de préparation semi-marathon et je me mets au plan de préparation marathon. C'est ce que j'ai fait, j'ai arrêté les plans semi et je me suis inscrite du coup sur la même application, donc Runa, RUNA, pour préparer mon premier marathon avec eux. Et j'avoue que je m'attendais absolument pas à ce que la préparation soit aussi corsée. On s'imagine pas à quel point c'est vraiment le double d'un semi-marathon. Quand t'as préparé un semi-marathon, tu te dis ok c'est bon, je peux le faire, etc. Sauf qu'en fait tout est décuplé. La fatigue est décuplée, les distances sont décuplées, les allures sont aussi rapides. Il y a encore plus, enfin tout est tellement mille fois plus fort. Que c'est hyper dur et c'est très très chronophage parce que comme c'est une distance qui est très longue, tu dois beaucoup courir, il y a beaucoup de kilomètres à faire dans la semaine, t'as des sorties longues qui sont très longues, c'est extrêmement chronophage parce que comme je l'ai dit, tu cours longtemps mais aussi t'es tellement fatigué que t'as pas le temps, t'as juste aucune énergie pour ressortir après, pour refaire des trucs après, faut vraiment s'habituer à une telle charge de préparation, en tout cas dans mon humble avis. Et c'est tellement particulier, en fait, de vivre une telle expérience parce que c'est très, très fort. Et c'est vraiment vous contre vous-même tout le temps, tous les jours, toutes les semaines. Et si je peux donner un seul conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans une prépa marathon, c'est de documenter. La meilleure chose qui me soit arrivée, je pense que c'est vraiment de faire les vidéos YouTube que j'ai fait, où je vous montrais les entraînements que je faisais chaque semaine, où je savais qu'il fallait que je parle à la caméra et que j'explique. Et vous n'êtes même pas obligé d'ouvrir une chaîne, mais faire votre propre tableau de bord, journal de bord plutôt, et en parler, écrire peut-être. J'avais commencé à faire un petit carnet, j'ai jamais écrit dedans, mais je sais que si j'avais pas eu une chaîne YouTube, j'aurais fait ça. J'aurais juste documenté tout, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous tient. Et puis même, revoir après. Je sais que là, des fois, j'aime bien aller re-regarder des vidéos de temps en temps pour voir bah, ce que j'avais fait cette semaine-là. Et je trouve que c'est super drôle et c'est super cool de voir que vous pourrez après regarder plus tard, quand vous aurez fait votre marathon, bah, tout ce qui s'est passé. C'est incroyable et c'est trop trop bien et c'est une chance de ouf. Et je suis trop contente d'avoir fait ça. Mais c'est sincèrement très compliqué de préparer le marathon de Paris. Je sais pas si c'est tous les ans comme ça, mais je crois que c'est ça. Que tous les ans, c'est en avril, ou en tout cas dans la même période à peu près. Et que du coup, c'est un marathon qui... je crois, et encore, me citez pas, ça se trouve, j'ai de la merde, mais qui se prépare spécifiquement en hiver, parce que du coup, j'ai commencé ma préparation en décembre, donc c'est pile quand l'hiver commence, et tu t'entraînes, du coup, bah, sous des températures très froides, il fait tôt nuit, il fait vraiment pas la meilleure météo du monde, tu peux très facilement tomber malade, tu peux très facilement te faire mal, parce que ça peut glisser, parce qu'il fait noir, enfin, c'est très compliqué, il y a beaucoup de choses à garder en tête, il faut faire très attention, parce que c'est une période un peu charnière, et il peut y avoir énormément de choses qui tournent mal, donc je suis très contente de ne pas être tombée malade cet hiver. Non, je suis pas tombée malade, j'ai juste eu une blessure et c'est ma faute, c'est parce que j'ai enchaîné deux sorties longues à la suite, alors que j'étais pas du tout reposée, j'étais allée en concert, enfin j'avais vraiment fait la craquette, j'avais fait n'importe quoi. Mais encore une fois, c'est très particulier comme préparation. Je pense que j'aurais pas du tout vécu la préparation de la même façon si ça avait été, je sais pas, en printemps. Genre là, si je commençais une préparation si j'avais commencé une préparation en mars, bah, ça aurait été rien à voir parce que il fait bien meilleur. Y a plein de monde qui court dehors, tu peux trouver du monde qui veut courir avec toi. Dans le sens où tu peux avoir des potes qui courent mais qui vont pas courir un marathon et qui peuvent courir avec toi. Sauf que quand t'es en hiver et que tu dois aller courir tard le soir, quand il fait froid et qu'il pleut peut-être, qu'il neige peut-être, tu vas jamais trouver quelqu'un qui voudra courir avec toi. Enfin, il faut trouver des gens qui sont complètement malades. Donc c'est très particulier et je trouve que c'est une préparation qui demande énormément de mental et je pense que j'aime bien décrire la préparation d'un marathon comme quelque chose qui se passe en trois parties, pour moi en tout cas. La première partie, c'est la motivation. Les premières semaines et peut-être le premier mois et quelques, c'est de la motivation. Est-ce que t'es motivé vraiment pour ce marathon? Est-ce que t'as vraiment envie de le faire? Et du coup, ça passe par la motivation. Le premier mois, c'est vraiment ça. Deuxième partie, pour moi, c'est le physique. Est-ce que t'as le physique qui tient? Est-ce que t'es physiquement... enfin, t'as les jambes pour, est-ce que ça passe? Et je pense que c'est vraiment ça la deuxième partie. Je pense que moi j'avais énormément de mal physiquement, dans le sens où des fois t'avais des courbatures, t'es fatigue sur fatigue, t'es tout le temps fatigué. C'est vraiment pour moi le physique qui tient la deuxième partie. Et la troisième partie, la dernière, peut-être le dernier mois, les dernières semaines, c'est que du mental. C'est que du mental parce que t'as presque plus de motivation ou très peu, t'es très fatigué. T'as mal beaucoup, t'as enchaîné énormément de sorties, t'as enchaîné énormément de hauts et de bas. Enfin, c'est pour moi, la dernière partie, c'est que de la motivation. C'est que du mental. Et c'est, est-ce que t'as le mental pour tenir? Est-ce que tu vas tenir grâce à ton mental? Et c'est que ça qui rentre en compte pour moi, en tout cas, et comment je l'ai vécu. J'ai vraiment vu trois étapes complètement distinctes de ma préparation. C'était vraiment motivation, physique, mental, point barre. Ça veut pas dire que... il n'y avait pas le mental qui a joué dans la première ou la deuxième partie, bien évidemment pas. Mais pour moi, c'était vraiment ça qui était le plus mis à rude épreuve à chaque partie, enfin à chaque phase de cette préparation en tout cas. Pendant cette préparation marathon, il y a énormément de choses qui se passent parce que tu dois découvrir plein de choses nouvelles, des distances, quand c'est ton premier marathon, tu dois découvrir des distances que tu n'as jamais fait. Parce que bah, quand tu as juste fait un semi-marathon avant, enfin juste, c'est déjà énorme, mais comme moi j'avais juste fait un semi-marathon avant, j'avais jamais fait plus de 21 km, donc tu découvres ce que c'est 25 km, tu découvres ce que c'est 26 km, 28, peut-être 30 si c'est dans votre programme, mais il y a plein de choses que tu découvres des courbatures, de la fatigue différente et une façon aussi de gérer les courses qui est complètement différente, parce que la façon de gérer un semi-marathon, un 10 km ou un marathon, c'est le jour et la nuit. Un marathon, ça se prépare dans... autre chose que la course, pas que c'est pas le cas pour les autres, mais encore plus, il faut faire attention à ce que tu manges, il faut faire attention à ce que tu manges pendant la course, avant la course, comment tu gères tout ce qu'il y a autour, et c'est tellement prenant parce qu'il y a plein d'autres choses et plein d'autres petites catégories de ta vie qui vont rentrer en jeu. Et je trouve que c'est incroyable parce que c'est vraiment un effet domino. Enfin, tu te donnes tellement dans une préparation que tu as envie de faire les choses correctement à côté. Et je trouve ça dingue, en fait, ce que ça rapporte. J'ai donc fait à peu près 16 semaines de préparation, même 18, pour être exact, je pense que j'ai fait bien 18 semaines de préparation pour arriver jusqu'à le marathon, du coup, dimanche 7 avril. Avant le marathon, donc la semaine avant, j'ai fait une semaine d'affûtage, qui est une semaine où j'ai couru que deux fois, j'avais fait que 10 km dans la semaine, enfin même pas, non j'avais fait peut-être 12 je crois, un truc comme ça, où j'étais extrêmement reposée, où j'avais fait extrêmement attention à ce que je mangeais, à ce que je buvais, à la quantité d'eau que j'essayais d'avoir dans la journée, à m'étirer, etc. etc. Et c'était très très cool, c'était vraiment sympa et... Je vais en faire une vidéo YouTube, mais cet affûtage, il a changé complètement le cours de ma course, je pense. Et ça m'a fait tout le plus gros bien du monde. Je ne peux que recommander ça. Et je pense qu'il y a plein de petites parties de mon affûtage que j'aurais pu commencer avant. J'aurais pu commencer à travailler sur mon mental bien avant et j'aurais dû le faire bien avant. J'aurais dû faire attention à l'eau que je buvais bien avant. Je pense que c'est juste la partie réduire ma quantité de kilomètres que je ne pouvais pas vraiment faire avant. Mais il y a plein de parties de cet affûtage auxquelles j'ai fait vraiment très attention la semaine avant, qui auraient dû, pour moi, être pris en compte un peu plus tôt dans ma préparation. Mais voilà, ça c'est mon premier marathon, donc on peut pas faire tout parfaitement. Et je suis quand même très très contente de ce que j'ai réussi à faire. Avant la course, j'étais extrêmement stressée, genre la veille au soir, même si j'ai très bien dormi. Bizarrement, j'ai dormi 6h30, 7h presque, la veille du marathon, ce que j'aurais pas cru possible, mais ce que j'ai fait. Et le matin, j'étais très très stressée, j'ai fait que pleurer, enfin, c'était très grave, genre je devais m'accrocher au mur et tout, drama queen, vraiment drama queen. Mais ça s'est super bien passé au final, enfin, c'est une expérience incroyable. Je sais pas comment décrire à quel point c'est dingue ce qu'on ressent. Parce que t'as dédié une telle partie de ta vie, tant de temps de ta vie à ça, c'est juste dingue de voir que t'arrives à le faire et que c'est un challenge de dingue que très peu de gens font. Je crois que c'est 4% des Français et 1% de la population mondiale. C'est fou. C'est une expérience tellement riche en émotions et je ne peux que vous recommander de vivre ça dans votre vie. Je dis pas que tout le monde devrait faire un marathon parce que je pense pas que c'est pour tout le monde et je pense qu'il y a plein de gens qui ont des capacités. Enfin, je pense que tout le monde pourrait le faire s'il avait un programme, mais je pense qu'il y a plein de gens qui seraient pas forcément intéressés et c'est ok. Mais si ça peut vous motiver à vous lancer un challenge comme ça, quel qu'il soit, je vous le souhaite et je vous le souhaite tellement de ressentir toutes ces émotions-là. Et le stress que j'ai vécu avant le marathon, il me restera gravé en tête pour toujours. Ce que j'ai vu pendant le marathon, les gens qui se soutenaient, les gens qui se tapaient sur les épaules, les gens qui se portaient, les gens qui s'embrassaient, les gens qui se criaient dessus pour se soutenir. Enfin, c'est des choses qui sont gravées à jamais dans ma mémoire et j'ai très rarement vu des moments aussi beaux de vie et d'humains aussi forts. Et je sais pas, je trouve que c'est dingue que le sport puisse nous relier les uns aux autres. Enfin, nous relier, ça dit ? Non, je crois pas. Nous lier les uns aux autres autant. Et c'est dingue, c'est vraiment dingue. J'arrête pas de le répéter, mais je suis tellement fière de pouvoir avoir tout ça à vous raconter. Et potentiellement vous avoir motivé. Je reçois plein de DM ces derniers jours de personnes qui me disent qu'ils vont faire Paris 2025 parce que je les ai motivés et ça me réchauffe tellement le cœur et je suis tellement fière de ça et j'ai trop envie de venir vous voir et de vous soutenir et tous crier vos noms, vraiment c'est trop bien et je peux que vous remercier tous ceux qui étaient là sur le parcours, qui étaient là comme supporters, etc. C'était incroyable, j'ai une chance de dingue d'avoir eu autant de personnes sur les côtés qui me soutenaient et même pendant la course, plein d'autres coureurs qui m'ont soutenue, donc merci. C'était une petite parenthèse pour vous remercier parce que j'aurais jamais fait tout ça sans vous. Et vous étiez vraiment mon journal. Mon journal intime, c'était vous. Mon journal de bord, c'était vous. Les vidéos que je postais sur Instagram, c'était mon journal intime. Les vidéos que je postais sur YouTube, c'était mon journal intime. Et merci d'avoir été là. Maintenant que je vous ai raconté ma toute petite histoire, et encore, j'ai pas pu rentrer dans les détails parce que je vais poster un Reels recap dans cette semaine, dimanche, je pense. Il est maintenant l'heure que je réponde à vos questions. Il y en avait énormément encore une fois et je suis désolée pour ceux qui n'ont pas leur réponse, mais promis, j'essaierai de faire d'autres épisodes. Premièrement, j'avais la question, quand t'es un total débutant, comment est-ce que tu commences ? Je pense que la seule chose que j'ai à vous dire, c'est possible hein, d'être un total débutant et de préparer un marathon. Encore une fois, je ne suis pas coach, hein, donc c'est vraiment mon conseil à moi, ne me prenez pas comme porte-parole. Mais je pense que c'est un milliard de fois mieux si vous voulez courir un marathon de vous dire d'abord, je fais une prépa semi-marathon. Je fais une prépa pour un semi. Je trouve un semi-marathon qui est dans, je ne sais pas, 2 mois, 3 mois, 4 mois, j'en sais rien. Et je fais une préparation pour ce semi-marathon. Même 3-4 mois. Hein. Moi, je pense que même 6 mois, c'est bien. Vous vous dites, OK, je me mets 6 mois pour courir un semi-marathon. Je me donne ce qu'il faut. Je trouve un plan en X semaines. Je contacte un coach. Je trouve une application. Il y en a plein des applications gratuites qui vous donnent des plans, que ce soit KeepRun, que ce soit... qu'est-ce qu'il y a d'autre de gratuit ? Comment ça s'appelle ? Ah oui, Nike Run Club. Sinon, si vous voulez quelque chose de payant, il y a aussi Runa que j'ai utilisé. Il y a Campus Coach, il y a énormément d'applications qui peuvent vous donner des programmes et qui sont faits par des spécialistes, enfin des coachs. Et pour moi, c'est la meilleure chose à faire d'abord de commencer par un semi-marathon, de pas tout de suite se mettre dans le bain d'un marathon, parce qu'on se rend pas compte, vraiment, on se rend pas compte de la charge que c'est et ce que ça demande tant qu'on n'a pas fait déjà la moitié. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est primordial, en tout cas c'est mon avis, de faire d'abord un semi-marathon. Parce que je pense qu'on ne se rend pas compte de vraiment tout ce que ça demande. Et c'est déjà bien de se mettre un peu plus dans le bain, de faire un tout petit plongeon, mais vous savez, dans une pataugeoire, avant de faire la grosse bombe dans le grand bain, de faire un plongeon dans un bain un peu moins profond, est-ce que je veux dire. Ensuite, quel programme et quelle application est-ce que j'ai utilisé ? Donc moi, je vous ai dit, j'ai utilisé Runa. Et mon programme, c'était un programme en 16 semaines. J'ai couru 4 fois par semaine, voire 5 des fois, mais pas beaucoup, hein, de temps en temps. C'était 4 séances par semaine. J'ai fait une séance de sortie d'endurance qui était assez courte. En gros, l'endurance, c'est quand tu cours pas très vite, que tu cours à une allure à laquelle tu peux parler, quoi. C'était une séance comme ça, donc d'endurance, donc course lente, très peu de kilomètres, donc 5-6 kilomètres à peu près, entre 5 et 8. Ensuite, il y avait une séance d'intervalle, donc de fractionné, où tu t'es en fractionné sur des allures très rapides, mais sur une courte distance, plusieurs fois de suite. Ensuite, j'ai fait des séances de tempo. Donc, c'est des courses où tu vas courir à une allure très rapide, qui est difficilement soutenable, mais qui est soutenable sur plusieurs kilomètres. Là, c'est plus long qu'un fractionné, mais c'est une allure qui est bien plus rapide que ton allure d'endurance. C'est vraiment une allure où t'as du mal à tenir, c'est difficile, il faut que tu y penses consciemment, mais tu le fais. Ouais, ce que je veux dire, c'est pas du tout agréable, quoi. Et la dernière sortie de la semaine, la quatrième, c'était une sortie longue. Donc c'est une sortie qui est faite pour tester votre matériel. Tu testes ton matériel, tu testes la nourriture que tu veux pendant le marathon, tu essaies de dormir à l'heure à laquelle tu vas dormir, de faire la course à l'heure à laquelle la course aura lieu, de porter les vêtements que tu porteras le jour J. Vraiment, c'est des courses d'entraînement où tu t'entraînes sur tout ce que tu peux, tous les accessoires, toutes les situations possibles, et où tu testes aussi les allures à laquelle tu es censé courir le jour J, pour pouvoir voir comment tu te sens, les essayer entre guillemets, comme si c'était des chaussures. Ah oui, aussi évidemment, porter les chaussettes que tu voudras porter, les chaussures que tu voudras porter, etc. Et voilà, c'était vraiment des courses très longues qui ont augmenté avec le temps. La plus que j'ai fait, c'est 34 km, mais encore, ça dépend de votre programme, ça dépend de votre coach, ça dépend de plein de choses. Et je les ai faites pas du tout de suite, hein, les 34 km. Hein, c'était vraiment loin dans mon programme. C'était pas du tout les premières semaines. Et voilà, c'était ça mon programme. Si jamais vous voulez essayer Runa, donc RU2NA, vous pouvez utiliser le code Océane. Océane, pourquoi je dis mon prénom comme ça? Océane en majuscule. Et ça vous donne 2 semaines d'essai gratuit, si jamais. Voilà, c'est pas sponsorisé, hein, mais juste j'ai un code. Donc si jamais, si vous voulez, avec grand plaisir. Ensuite, j'avais une question, comment gérer les blessures? Et ça me rappelle que je ne vous ai pas parlé de ça dans ma petite partie histoire. Je me suis blessée. Ah si, je vous ai dit vite fait que je m'étais blessée, je crois. Oui, bref. Je me suis blessée au ménisque externe gauche. Donc c'est un os qui est à gauche de votre genou. Il s'est déplacé. Du coup, je suis allée voir un ostéopathe qui me l'a replacé. J'ai fait énormément de séances de kiné. J'ai fait 3 séances de kiné, 1 séance d'ostéo. Et j'avais énormément d'entraînement à faire. Ça m'a suivi pendant presque 3 semaines. C'était très très dur mentalement. Parce que j'avais envie de courir et j'étais en plein dans ma prépa, mais je pouvais pas parce que j'avais mal et parce que c'était déconseillé, qu'il fallait que je réduise les kilomètres. En gros, j'ai dû courir plus que 4 fois par semaine, mais sur des distances beaucoup plus petites pour pouvoir garder le nombre de kilomètres que j'avais à faire dans la semaine, mais sans me faire mal en fait. Et du coup, comment gérer les blessures? Tout ce que j'ai à vous dire, parce que je suis pas médecin, mais c'est d'aller voir quelqu'un tout de suite, vraiment, de consulter et n'avoir aucune peur d'aller consulter, c'est ce qui m'a sauvée. Moi, je le dis et je le crie haut et fort que c'est mon kiné qui m'a sauvée. Et d'aller voir un kiné du sport, évidemment. Des kinés qui sont faits pour ça, parce que enfin, vous pouvez aller voir un kiné normal, mais pour moi, c'est extrêmement recommandé d'aller voir un kiné qui est spécialisé dans le sport et même dans la course à pied si vous trouvez. Mais c'est ça, moi, qui m'a aidée tout de suite. Et l'autre partie de cette question, c'est comment savoir quand il faut s'arrêter ? Bah, c'est simple, quand t'as mal. Et moi, je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas ce qui m'est arrivé quand j'ai eu mal la première fois. Je me suis pas arrêtée. J'ai pas arrêté ma course pour autant. Et c'est ça qui m'a empiré ma blessure. Et c'est ça qui, pour moi, a fait que je l'ai traînée pendant 3 semaines. C'est parce que je me suis pas arrêtée. C'était pendant ma course de 34 km. J'ai couru sur une douleur pendant 24 km, alors que j'aurais dû juste arrêter ma course là et pas faire mon 34 km. Et je l'ai fait quand même, donc je suis une débile. Donc vraiment, pour moi, dès que vous avez mal quelque part, mais arrêtez-vous tout de suite la course, peu importe ce que vous dit votre ego, et allez consulter, et étirez-vous, je sais pas, selon ce que vous dit votre kiné, et faites les exercices qu'il vous dit de faire. Mais c'est primordial, et je pense que quelque chose qui vous évite les blessures, c'est déjà au préalable d'avoir fait un rendez-vous chez le kiné, pour qu'il ait vu si vous aviez pas déjà des faiblesses quelque part, d'avoir suivi certains peut-être étirements qu'il peut vous donner. Pour moi, c'est primordial déjà au début d'une prépa marathon d'aller voir un kiné pour qu'il vous dise quoi faire déjà, pour quel étirement il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas, pour que lui, il vous personnalise un peu votre programme et qu'il vous dise qu'est-ce qui est plus intéressant pour vous de faire avant une course, après une course, en termes d'étirement, etc., en termes d'exercice, mais aussi comme je l'ai dit, je crois pas que je l'ai dit, mais le renforcement musculaire. Donc c'est faire des séances de salle dans la semaine ou une au moins de séances jambes, d'essayer de soulever un peu des poids, de faire un peu de pilates à la maison pour travailler un peu vos articulations différemment, d'essayer de muscler un peu les muscles autour de vos articulations. Enfin, c'est plein de choses que je n'ai pas assez fait, que j'ai fait au début de ma préparation de façon assez assidue, mais que j'ai pas continué de faire parce que j'étais KO et que je sais pas, je me suis pas trouvé des excuses, j'ai juste pas suivi ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis blessée, parce que j'ai pas fait assez de renfort musculaire. Mais ça, c'est primordial et je pense que c'est hyper important que vous fassiez ce travail très sérieusement, parce que une blessure est très vite arrivée et ça peut vous gâcher complètement votre marathon et votre prépa marathon. Ensuite, on va parler de nutrition par rapport au marathon. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plein de façons de se nourrir différentes, hein, y a plein de façons de faire différentes, il y a plein d'écoles différentes. Et là, je parle de autant pendant la semaine que pendant la course. Et c'est tellement quelque chose de personnel que je peux pas juste vous dire qu'il y a une façon de faire, parce qu'il y a déjà 3 milliards de marques de gel différentes, il y a 3 millions de régimes alimentaires différents. Et là, je parle pas de régime en mode on va faire du camp, pas du tout, mais il y a des gens qui sont flexitariens, il y a des gens qui sont carnivores, il y a des gens qui sont végétariens, il y en a qui sont véganes, enfin il y a plein de choses différentes à faire. Et encore une fois, il y a des nutritionnistes du sport qui peuvent vous accompagner. Moi, je sais que quand je me suis lancée dans ma prépa marathon, avant ma prépa, j'ai contacté une nutritionniste du sport. J'ai fait juste un rendez-vous avec elle, hein, qui a été partiellement remboursé, je crois, par la Sécu. Et elle m'a donné un programme. Elle m'a dit, enfin, elle m'a pas donné un programme en mode tu manges ça lundi, mardi, midi, machin. Non, juste elle m'a dit, bah, typiquement, c'est ça une assiette. Tu devrais essayer de faire ça. Dans la journée, tu devrais essayer de manger ce genre de truc. Et ça m'a vraiment aidée. Ça m'a donné énormément de force, parce que il y a plein de choses que je savais absolument pas. Il y a plein de nutriments que j'allais pas chercher. Il y a plein de façons de me nourrir que je connaissais pas. Enfin, vraiment, il y avait plein de trucs qui étaient hyper intéressants et je suis trop contente de l'avoir vu au début de ma prépa. Et je pense que ça peut vraiment vous aider si jamais vous êtes un peu... vous y connaissez pas trop ou que vous savez pas vraiment quoi faire en termes de nutrition pour préparer un marathon, parce que c'est colossal. Enfin, ça demande énormément d'énergie, donc il faut savoir se nourrir correctement. Et même pendant la course, il faut vraiment tester. Pour moi, c'est ça le plus important. Pendant vos sorties longues, vous testez des marques de gel différentes. Les gels, pour ceux qui ne savent pas, c'est... Enfin, même moi, j'y connais rien, mais c'est des petits trucs que tu prends, là, et c'est plein de glucides, et puis ça te donne un coup de fouet, d'énergie, etc. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai essayé ça pendant mes premiers 30 km. Je trouvais que c'était dégueu, je détestais. Au final, j'ai pris ceux de chez Meltonic, qui est une marque française, et j'ai adoré, parce que c'est les seuls que j'arrivais à prendre sans avoir envie de vomir et sans trouver ça trop dégueu et trop pâteux. Mais après, vous pouvez tester aussi plein de marques de compotes, des fruits secs. Enfin, il y a plein de choses à faire différentes et je pense que tout le monde a son école, tout le monde a sa façon de faire. Il faut vraiment tester pour trouver ce qui vous convient et peut-être en parler à des gens autour de vous qui ont déjà fait des marathons ou vous inspirer un peu à droite à gauche sans forcément recopier, évidemment, mais pour voir ce qui fonctionne et surtout tester le plus possible. Ensuite, on va poser la question des accessoires indispensables. Pour moi, le plus indispensable déjà, c'est une bonne paire de chaussures et même deux, si je peux me permettre. Si c'est possible d'avoir deux paires de chaussures pendant la prépa marathon, pour moi c'est indispensable. J'ai couru avec des Nova Blast 4 et des gels Nimbus 26 de chez ASICS, les deux. je mettais les Nova Blast 4, ou 4, je ne sais même pas si c'est les 4, mais je mettais mes Nova Blast pendant les séances de fractionné et les séances un peu plus courtes. Et je mettais mes gels Nimbus 26 pour les sorties longues. Parce que, enfin, faut pas trop. Enfin, en fait, tu cours tellement. J'ai couru plus de 700 km pendant ma prépa marathon. Donc, si tu utilises qu'une seule paire de chaussures, tu vas l'user et tu vas te faire mal au dos. Enfin, en tout cas, c'est mes conseils et c'est moi comment je l'ai vécu. Mais je pense que c'est important de savoir même un peu, enfin, diversifier la chaussure sans forcément que ce soit des choses qui soient complètement différentes en termes de drop ou en termes de. Vas-y, je sors le mot drop comme si je savais ce que ça voulait dire depuis longtemps, alors qu'il n'y a pas du tout. Mais il y a plein de modèles que tu peux avoir. Et je pense que le plus important, c'est que tu restes peut-être dans la même marque. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidé, je pense, de rester dans des Asics. Mais encore une fois, tu peux courir avec deux marques différentes. Et tant que ton pied est habitué, je pense que c'est ça qui est le plus important. Par exemple, ma copine Charlotte, elle a couru avec des Hoka et avec des Saucony pendant toute sa prépa. Donc, c'est faisable. Il faut faire attention aussi de bien adapter ton pied à la chaussure avant de commencer à la porter. En faisant certaines courses avec d'autres chaussures et en y allant progressivement parce que sinon tu peux vite te blesser. Mais voilà, je pense que c'est important de courir bien évidemment tout le long de ta prépa ou une bonne partie de ta prépa avec les chaussures avec lesquelles tu veux courir ton marathon. Mais c'est pour moi important d'avoir au moins une autre paire avec laquelle tu peux interchanger. Ensuite, en termes d'autres accessoires, pour moi, le plus important c'est vraiment les chaussures. Après, enfin, c'est pas un accessoire, mais un bon programme. Et je dirais une banane. Moi, j'ai couru avec une banane toute ma préparation et à mon marathon aussi. J'avais même pas de veste d'hydratation. Je pense que la prochaine fois que je courrai un marathon, j'aurai une veste d'hydratation par contre. Mais voilà. Et aussi une flasque. Donc, une gourde qui est fluide. Donc, vous savez, qui est pas dure et que tu peux garder dans la main. Ça aussi, c'est trop bien. J'ai couru avec pendant tout mon marathon et je pense que c'est quelque chose qui m'a grave aidé parce que du coup, je buvais un peu tout le temps. Et ça, c'est cool de rester hydraté. Ça t'évite d'avoir des points de côté, etc. En tout cas pour moi. On m'a posé la question, comment s'inscrire ? Alors là, il y a plein de sites différents. Tu as le site World Marathon, qui est bien. J'ai fait tous mes semis, je me suis inscrite avec ça. Sinon, tu as Finisher aussi, qui est top. Et tu as un autre site, attendez, je crois que ça s'appelle Miles. Ça s'appelle ? Oui, Miles Republic. Je les ai vus au salon, ils sont trop mignons en plus. Donc, c'est des sites qui regroupent toutes les courses, que ce soit en France, à l'international. Et tu peux t'inscrire, tu peux mettre tes dates, tu peux mettre les distances que tu veux, tu peux mettre des pays, tu peux mettre des villes et ça t'aide à trouver des trucs et c'est trop bien parce que du coup tu peux avoir un peu une idée, c'est un peu comme le Skyscanner ou Google Flight mais des courses, c'est cool. Ensuite on m'a posé la question, quel effet ça a eu à ton corps la course à pied ? Est-ce que j'ai perdu du poids ? Est-ce que j'ai pris du poids ? À quoi ressemble mon corps, etc. Déjà la première chose qui me vient en tête c'est que ça m'a vraiment aidé dans ma relation avec mon corps, la course à pied en général. Et je pense que c'est une chance parce qu'il y a plein de gens qui utilisent la course à pied comme une punition pour leur corps. Et moi, c'est pas du tout le cas. Au contraire, ça m'a vraiment aidé dans ma relation avec mon corps et la façon dont je vois mon corps. En fait, quand j'ai compris ce dont mon corps était capable de me faire faire et ce qui m'amenait à faire avec les semi-marathons, avec les courses, avec certains entraînements, etc., qui étaient très durs, ça m'a fait tellement aimer mon corps. Et je le vois même plus pour une forme, mais vraiment pour une machine. Et je le vois vraiment comme une machine de A à Z. Et c'est incroyable. Je suis trop contente d'avoir cette relation maintenant avec mon corps. Et même si c'était pas vraiment la question, c'est quelque chose qui m'a aidée, mais tellement, dans ma vie. Parce que j'ai toujours eu une relation un peu particulière avec mon corps, dans le sens où, pendant très longtemps, je pense, entre mes 16 et mes 19 ans, je vais dire 20 peut-être, j'avais une mauvaise relation avec mon corps. Je le voyais vraiment pour juste une forme. Et est-ce que j'avais du poids là à perdre, à gagner, machin. Et en fait, maintenant, je le vois juste comme une fucking machine et j'aime trop mon corps, même si je sais que si j'avais ce corps-là il y a 2 ans, je l'aurais peut-être pas aimé. Bah, je m'en fous, en fait. Je suis juste trop contente et ça m'a trop aidée. Et en termes de poids, honnêtement, il y a eu une période où j'ai beaucoup perdu à cause de la course à pied. Enfin, à cause... dû à tous les entraînements que j'avais. Je pense que aussi j'avais plein de problèmes un peu particuliers à côté. Mais j'ai beaucoup perdu un moment et la course à pied, ça m'a pas aidé comme du coup je brûlais énormément. Mais il y a aussi un moment là, vers fin du marathon, où j'ai repris parce que je mangeais à balle énormément. Parce que je voulais énormément d'énergie et je mangeais beaucoup de glucides. Et du coup j'ai pris un peu de poids. Enfin, je sais même pas, hein, je suis même pas montée sur une balance hein, pour vous dire. Mais je le sentais entre guillemets que même sur mon visage j'avais pris un peu de poids. Je m'en fous, enfin, j'étais trop contente dans tous les cas. Et ouais, en vrai, ça dépend. Il y a plein de gens qui perdent du poids, il y a plein de gens qui prennent du poids. Et franchement, c'est même pas tant important que ça. Je pense que tant que c'est fait de façon normale, voilà. Enfin, je sais pas. J'ai pas trop envie de me lancer dans ce sujet-là, sachant que ça peut être très triggering pour certaines personnes. Et sinon, en termes de comment, à quoi il ressemble, j'ai pris des muscles aux cuisses. Ça, c'est trop trop bien. Mais j'ai pas pourtant pris des centimètres de ouf, mais je sens qu'elles sont musclées de dingue. J'ai des abdos un peu plus dessinés, mais je pense que c'est aussi parce que je fais du gainage. Et mes bras aussi, je pense que j'ai un peu perdu de bras en balle. Mais en vrai, je m'en fous. Enfin, comme je vous ai dit, je pense que ça dépend de tout et de tout le monde. Il y a plein de gens qui vont peut-être perdre des cuisses, prendre des cuisses, j'en sais rien. Enfin, il y a plein de corps différents, donc faut pas vraiment se focaliser sur ça, je pense. On m'a beaucoup parlé de la motivation, d'où est-ce que j'ai trouvé ma motivation, comment je restais motivée, etc. Déjà, sachez que j'ai un ou deux épisodes de podcast sur la motivation, la discipline, qui peuvent vous aider. Parce que j'ai pas envie de refaire des trucs là-dessus alors que j'ai vraiment fait des épisodes que à ce sujet, donc je vous mettrai le nom des épisodes en description. Vraiment, même dans l'épisode où je parle de semi-marathon et l'épisode où je réponds à vos questions sur le running, je parle aussi de motivation. Mais ce qui m'a aidé moi pour le marathon, je pense que c'est vraiment me dire que c'est un challenge de dingue que très peu de personnes arrivent à faire, donc que si j'y arrive, dans peu importe le nombre de temps que je prends, je serai trop fière dans tous les cas. Peu importe le nombre d'années qui ça va, enfin pas d'années, du coup de mois, de séances que ça va me prendre, d'heures que j'aurais pris à le terminer, je l'aurais fait et c'est ça qui me rendrait trop fière. Et je me suis dit, mais c'est dingue et tu peux être trop fière de toi. Et je sais pas, j'avais juste cet engouement-là pour le fait d'y arriver qui m'a gardé tout le long et j'avais juste envie que ça se passe. Évidemment aussi, trouver quelqu'un avec qui le faire. Moi je pense que sans Charlotte aussi, ça aurait été très dur parce que même si on l'a pas couru ensemble, on a vécu la préparation en même temps, donc on se parlait beaucoup, on s'écrivait beaucoup, on se racontait nos trucs. Même de suivre des gens qui te motivent, c'est aussi hyper important. Et je pense que trouver quelqu'un qui le prépare ou qui l'a déjà préparé, c'est aussi un game changer en termes de motivation. Et je pense que j'aurais pas du tout vécu la même préparation s'il n'y avait pas eu Charlotte. Ensuite, on m'a posé la question, est-ce que le marathon en lui-même, c'est plus une question de mental ou de physique ? Alors, je pense que c'est quelque chose de très personnel. Je pense que j'ai répété ça pas mal le long du podcast, mais c'est vrai que c'est dur de donner une réponse pour tout le monde. Enfin, c'est même impossible. Mais pour ma part, je pense que c'était physique. Oh, je sais pas. Ouais, physique plus que mental. Parce que j'ai pas eu de problème de cardio. J'ai absolument pas été essoufflée. J'ai pas été mal du tout. Mais c'est vraiment mes jambes. J'arrivais plus à pousser, en fait, au bout d'un moment. J'étais vraiment contrainte de ralentir, j'arrivais plus. En fait, j'essayais de pousser et je me sentais pousser mentalement et me dire allez, tu vas y arriver et tout, tu vas pousser. Et en fait, mes jambes n'avançaient plus. J'avais l'impression qu'elles ne répondaient plus, qu'elles étaient absolument plus vivantes, qu'elles n'étaient pas présentes, qu'elles avaient quitté mon corps, littéralement. Alors que mon mental était carrément présent et que j'étais encore en forme mentalement, même si ça commençait à flancher et que ça commençait à être loin à la fin, surtout comme je ralentissais. Mais ouais, je pense que pour moi, c'était plus du physique. J'avais plus des douleurs musculaires. Et je pense que c'est à cause du fait que, justement, j'ai pas été à la salle, j'ai pas fait mon renfort musculaire comme j'aurais dû. Mais voilà, c'est comme ça. Et faut que je bosse sur ça pour mon prochain marathon. Mais au moins, ça m'a donné envie de vraiment me bosser à fond sur mes muscles. Ça nous amène justement à la prochaine question qui est « Comptes-tu refaire un marathon ?» Je pense que si vous m'aviez posé cette question il y a une semaine, c'est ce que j'ai dit dans le podcast Dans la tête d'un coureur où je suis passée lundi, donc hier, pour ceux qui écoutent ça à mardi. Si on m'avait posé cette question il y a une semaine, donc à une semaine du marathon, j'aurais dit non, que jamais plus je veux faire ça, que la préparation c'est trop horrible, c'est trop dur et que je veux plus refaire. Mais après avoir vécu ce que j'ai vécu et le goût que j'ai eu de cette course et à quel point je l'ai aimé, je peux que dire oui. En fait, j'ai vécu un truc tellement fort. La préparation elle est dure, mais c'est ça aussi qui... C'est ça en fait le marathon, c'est la préparation. Et je sens qu'il y a quelque chose là. Je sens que je tiens quelque chose et qu'il faut que je continue et que j'ai trop envie de refaire et que c'est trop fort pour que je lâche. Dans le sens où je sens que je me suis pas donnée à 100 milliards de pourcents. Et c'est ça le problème. C'est ça qui fait que j'ai envie de refaire un. C'est que je sens qu'à la fin, j'étais bien. Genre là, on est mardi, le lendemain. On est lundi. Le lendemain du marathon, je marche tranquille. Je suis KO de fatigue, mais je marche tranquille. J'ai pas de couverture. Je suis arrivée. J'étais pas essoufflée, je suis arrivée, j'arrivais à marcher, je me suis pas du tout allongée, je me suis pas assise, j'ai rien, enfin tranquille en fait. Et je me dis mais c'est qu'il y a un problème et je sais que c'est parce que les derniers 7 km j'étais à une allure beaucoup plus lente que ce que j'aurais dû être et que j'arrivais pas à pousser. Mais je me dis je tiens quelque chose et il faut que je refasse un marathon pour changer ça et pour arriver à améliorer ce que j'ai fait aujourd'hui, même si je suis très très fière de tous les premiers 30 km que j'ai fait, je sais que sur les 12 derniers, j'ai manqué quelque chose et je veux absolument refaire un marathon pour m'améliorer encore sur ces petits points et revivre cette expérience de dingue que c'est et ressentir ça, même si bah, ce sera pas mon premier, mais ce sera quand même quelque chose de dingue et je sais pas, j'adore. Juste l'ambiance est incroyable, la préparation est dure, mais elle vaut tellement la peine et t'apprends tellement sur le chemin, donc je peux que dire oui. Ensuite, on m'a posé la question, à laquelle je vais répondre très vite, pourquoi est-ce que je porte pas de chaussures carbone ? Déjà parce que c'est cher, de 1, et de 2 parce que je sais pas, je sais pas si j'ai le niveau pour avoir des chaussures carbone, sincèrement. Et j'aimerais bien essayer un jour, hein, mais je pense qu'il faut attendre d'avoir une certaine vitesse quand même pour avoir des chaussures carbone, en tout cas de ce qu'on m'a dit. Mais pourquoi pas, hein. Mais juste là j'en avais pas parce que déjà c'est cher et de deux parce que je sais pas si j'ai la vitesse suffisante pour avoir des carbones, pardon, j'ai failli m'étouffer. On m'a posé la question de est-ce qu'un suivi médical est important. Pour moi oui, et je pense que pour tout le monde ça devrait l'être, de voir un kiné avant, déjà un médecin généraliste avant de se lancer dans un tel projet, de voir un kiné, de voir peut-être un ostéo, de voir une préparatrice, enfin une nutritionniste, enfin je pense qu'il y a plein de médecins qui peuvent vous accompagner et qui devraient vous accompagner, surtout au moins consulter un médecin généraliste avant et potentiellement un kiné si besoin ou un podologue si vous avez des problèmes, enfin je pense que c'est important de pas se mettre tout seul et un suivi professionnel, même ne serait-ce qu'avec un coach, c'est très important, que ce soit une application ou que ce soit un coach professionnel, enfin personnel, d'une application comme Superprof par exemple, c'est central et ça peut que vous aider dans la préparation de votre marathon. Ensuite, on m'avait posé la question de la fréquence. Donc, je vous avais dit 4 fois par semaine. Et ensuite, en termes de moyenne par semaine, j'étais entre... Je pense, au début, j'ai commencé vers une trentaine, quarantaine de kilomètres et je suis montée jusqu'à 65 kilomètres par semaine. Et voilà, c'est à peu près tout. Mais enfin, ça dépend des coachs, ça dépend des programmes. Moi, c'était 65 max par semaine. Mais Charlotte, ma copine, elle a déjà fait 80. Enfin, ça change vraiment d'une personne à l'autre, d'un coach à l'autre et d'un programme à l'autre. Et surtout d'un niveau à l'autre, et de quel est votre objectif, et quel est votre niveau d'ancienneté. Je pense que pour quelqu'un qui n'a jamais couru de sa vie, il va absolument pas faire 65 km par semaine dès le début. Enfin, et même moi, je les ai pas fait dès le début, mais vous voyez ce que je veux dire. Et pour finir, dernière question, on m'a dit, comment vis-tu la fin de ce projet ? Alors, dur. Déjà, c'est très dur, parce que ça fait 4 mois que je travaille sur ça, et là, que cet échange soit passé... C'est hyper dur sur le moral, je pense que je ne m'en rends pas encore super compte parce qu'on est lundi. Mais je sens qu'il y a un vide et je ne sais pas trop quoi faire de moi là. Même si je sais que j'ai des courses de prévues et que j'ai plein d'autres trucs qui m'attendent. Ça fait tellement longtemps que ça dirige mes journées, que j'y pense tous les jours, que je fais attention à plein de choses tous les jours, que je m'entraîne pour tous les jours, que mes semaines sont guidées par ça, que je rêve de ça presque toutes les nuits limite. Enfin, c'est dingue d'arriver au bout d'un truc comme ça. Et je pense que c'est normal que je me sente un peu éteinte parce que bah, quand ça fait quelques temps que tout ce dont à quoi tu penses et toute ton énergie va vers un certain projet, quand il est fini, bah, c'est sûr que ça crée un vide. Et je pense qu'il faut aussi que j'apprenne à apprécier ce vide un certain temps, que je me laisse le temps de me reposer, même si là j'ai déjà envie d'aller courir, que je me laisse le temps de ne pas avoir tout de suite une autre échéance pour assimiler un peu ce que j'ai vécu et essayer d'en tirer ce que j'ai à en tirer. Mais ça m'a juste donné envie de refaire quelque chose d'aussi grand et d'aussi beau. Et ça m'a juste donné envie de continuer à me repousser mes limites. Et ça m'a rendu très très fière. Et je pense que c'est aussi ça que je retiens. C'est énormément de fierté et de reconnaissance envers mon corps, envers ma tête, envers mes amis, envers ma famille, envers vous, envers tout ce que je peux être reconnaissante dans la terre. Et enfin, je suis tellement touchée et tellement émue à chaque fois de voir tous les messages que je peux recevoir et je peux que vous remercier. Et je l'ai couru avec vous ce marathon et j'ai pas les mots. Voilà, je suis fatiguée, on est lundi soir, ok ? C'est à peu près tout pour cet épisode. Encore une fois, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de toujours vous lancer si vous pouvez le faire. Si vous avez l'opportunité de faire quelque chose, faites-le. C'est un des professeurs de Berkeley qui m'a dit ça quand j'étais en échange aux États-Unis. Je lui avais parlé d'un projet que j'avais à l'époque. Il m'a dit, dans la vie, si tu as l'opportunité de faire quelque chose, fais-le. Peu importe si tu y arrives ou pas, peu importe si tu vas au bout ou pas, lance-toi, toujours. Parce que quand tu as une porte qui s'ouvre, il ne faut pas la fermer, il ne faut pas l'ignorer. Et je peux que vous conseiller ça, si vous avez l'opportunité de faire un marathon, un semi-marathon, une compétition, quelle qu'elle soit, ou de lancer un projet, faites-le, faites-vous confiance, et vous pourrez qu'en tirer du positif si vous arrivez à avoir les choses d'une bonne perspective. En tout cas, ça, c'est mon avis. Et je peux que vous souhaiter de vivre une telle expérience dans vos vies, si c'est pas déjà le cas, et de continuer à en vivre plein. Et voilà. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur Insta. Je ne peux absolument pas vous garantir que je vais répondre parce que je vois pas tous mes messages, mais je vais essayer au maximum de récolter le plus de questions possible pour en faire un autre épisode. Je vous embrasse très très fort et encore merci pour tout, pour votre écoute, et je vous souhaite plein plein de bonnes choses. À la semaine prochaine, bisous.